Voici le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès 5h30.
Non, ça sera pas facile. 5h24 minutes. Joannie, je sais pas si t'es comme moi ce matin, mais je commence à avoir l'impression qu'on est un couple d'échangistes.
Oui!
Il y a pas une journée cette semaine qu'on a eu la même personne avec nous autres en studio.
Mais bon. Sais-tu quoi? Au moins, notre petit noyau dur, toi pis moi, il reste là, il reste fidèle au poste.
Exactement. C'est qui est avec nous autres? On vous le dit après que la madame nous ait chanté ça. Vincent Bolduc! On t'a gardé pour le dessert.
Ben oui, le dessert de l'échangisme. Quand tout le monde est fatigué, que ça ne tente plus, c'est là que j'arrive.
Quand ils sont tous malades,
c'est ça. Mais j'avais tellement hâte de travailler avec toi. Je t'avais entendu à quelques reprises dans la gang du matin dans les derniers mois. Puis je trouvais que tu avais l'air bien le fun, bien cool. Fait que c'est un honneur.
C'est réciproque, j'avais hâte de vous voir.
Mais c'est toute une apparence, parce que quand on le connaît vraiment...
Il est décevant.
Non, t'es bête dans
ah
vie,
oui,
le
moi je parle pas. Non, surtout à 5h30. Avant 10h, moi d'habitude, oui? je parle à personne. Non, c'est pas vrai.
Mais t'es-tu un oiseau de nuit habituellement ou t'es un gars matinal?
Moi, je suis un oiseau qui dort pas. Je suis comme mi-jour.
Ouais, c'est ce que
là,
j'allais dire, mais ça, que ouais, tu dors pas hier.
Ça dépend des moments. Des fois, je suis très nuit, très jour, c'est irrégulier. Okay. Je dirais que t'es un oiseau qui dort quand ça y adonne.
C'est comme un Grégory Charles, mais.
Ouais.
Mais qui joue clairement pas de piano. Puis tu veux pas m'entendre chanter.
Puis il a pas le même compte en banque, probablement.
Oui. Exactement.
aujourd'hui, à la météo, on est quand même bien quand on s'endort.
Oui,
belle petite neige sur nos voitures.
Oh, c'était-tu beau? C'était ouais. Tout tranquille, le petit tapis blanc au sol. Je trouvais ça magnifique ce matin. Alors, on est à moins 8 présentement. On ressent moins 13 avec le facteur fret. Ça va grimper à moins 6 en cours d'après-midi. On aura une petite neige intermittente toute la journée. On s'accroche parce que le soleil sera de retour pour notre début de week-end pour samedi.
C'est donc bien le fun. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée hier? Quelque chose d'intéressant?
Hey, moi, je faisais, m'attends à parler plus tard, je faisais de l'école à la maison.
Oh oui,
j'étais
c'est
à l'extérieur
commencé,
quelques
oui.
jours au chalet, puis là, je paquetais l'auto en même temps que je faisais des devoirs.
Et...
Non, c'est il y a de l'action, mais on aime ça, puis tout le monde le vit, fait qu'on donne un grand coup, là.
Mais quel âge, là, ton enfant?
21 et 27 sont à l'université à la maison, c'est pas vrai. 7 non, mais... et 9, j'en
oui.
ai un de 22.
Exact,
22.
C'est ce que j'allais dire.
Oui. Puis mes filles ont 7 et 9.
Hey, oui, c'est ça. Fait que moi, mes deux filles ont 7, fait qu'on est à la même affaire.
Exactement.
Moi, j'ai
toi,
ma,
toi, c'est
ma
toi
vie...
qui fais l'école à la maison.
Moi, oui, je suis en train de faire mes cours de 4e année. Ça a toujours été bien difficile pour moi à ce niveau-là.
Ben, mais... tu ris, mais j'en fais des démarches mathématiques de 4e année, puis
je
me perds des fois.
Mais moi, c'est fini. Moi, je peux l'aider dans bien des matières, mais mathématiques, oublie ça.
Imitation. Tu peux donner le cours d'imitation.
Oui, moi, pour vrai, je me cache puis je peux imiter le professeur.
Oui?
Oui, mais les enfants n'aiment pas ça qu'on imite leur professeur.
Ben, parce qu'elle l'aime beaucoup. Okay,
ben, oui,
oui.
Ben, oui.
Mais ça, c'est le fun d'aimer son professeur. Moi, si je n'aimais pas ma prof une année, là,
oui.
je scrapais tout. J'avais des mauvaises notes. Moi, j'ai besoin de sentir que tu m'aimes puis je vais t'aimer fort en retour. Puis cet amour-là va faire en sorte que je vais tout faire pour que tu sois fière de moi. Puis là, je vais péter des scores à l'école.
Mais si tous les profs avaient compris ça, m'a dit, c'est... Mm. Parce que souvent, c'est ça aussi. L'enfant veut tellement plaire au prof, puis le prof, on dirait qu'il...
Il s'en sac
un petit peu.
C'est pas dur. Ouais. Moi, j'ai dans le sens que moi, à cet âge-là, on veut tellement... En tout cas, dire certains enfants, moi, je voulais tellement aimer mes profs. Ça avait beau être Pierrette, la sœur qui avait son crucifix dans le cou,
oui.
Benoît, le grand slack qui était cool, je les aimais égal, sauf deuxième année.
Oui.
Ghislaine, deuxième année.
Oh.
J'étais amoureux d'elle. Mais amoureux, genre, je rêvais de la marier, Ghislaine. Et j'ai eu des nouvelles d'elle, d'un de ses enfants, à un moment donné, qui m'a dit, elle se rappelle de toi. J'ai dit, je me rappelle d'elle en deuxième année. Je faisais des blagues, je la tenais par le bras, je marchais dans la cour, puis je disais, oh, on s'est couché après le téléjournal hier. C'était mon running gag que c'était ma femme.
Mais c'est la preuve que les profs nous marquent tellement, ils ont tellement un impact important sur notre vie, sur notre évolution, positivement ou négativement. Moi, je me souviens autant des profs qui m'ont fait de la peine, qui n'ont pas été corrects avec moi, que les profs qui ont littéralement changé ma vie puis qui m'ont aidé à avoir confiance en moi. T'sais.
Ils ont mis sur nouveau le spécial d'Adèle fait par Oprah Winfrey. Puis dans la salle, il y avait le prof préféré d'Adèle quand elle était jeune. Et le prof est venu jaser avec elle et tout ça. Puis, hey, mon Dieu, mais le prof était « I'm so proud of you ». Je comprends, tu dois être fier que
oui.
C'est Adèle. C'est
bon. Oui,
puis elle dit « Je me rappelle très bien de toi ». J'espère, c'est
mais
Adèle.
Tu vas l'inventer, tu vas mélanger avec l'autre. Bien sûr, j'ai jamais vu une enfant. Elle va pas y aller à Oprah et dire...
Non, elle ne dit rien. Elle. Ah non, mais c'était beau parce qu'Adèle, elle pleurait tout ça. Ouais. Je disais, cette madame-là, elle ne sait pas, mais d'après moi, en rentrant chez eux, elle va avoir une gerbe de fleurs à 150 000 $.
Puis moi, à l'inverse, il y a une professeure qu'on a tellement écœurée au secondaire que je me suis excusée plus tard. J'ai travaillé avec sa sœur. On était des secondaires 3, puis elle avait juste des 5, puis elle avait fait l'erreur de nous dire... Moi, j'ai juste des 5 d'habitude, fait que je vous traiterai pas en bébé, je vous punis pas, je vous traite pas comme mes enfants. On était dans un âge très difficile. Parler pendant des oraux, la déranger. Elle est partie en congé de maladie à un moment donné dans l'année. Ah, elle était épuisée. Oui, je pense qu'elle était épuisée aussi au début. Puis nous, dans notre adolescence, ben, on
n'en avait pas aidé.
Puis plus tard, pour vrai, j'ai travaillé avec sa sœur, qui est une coiffeuse. Puis là, elle me raconte sur le plateau, c'est ma sœur, Micheline. Peux-tu lui dire à quel point je suis désolée? À mon souvenir, on s'est écrit chacun des mots. Moi, j'ai écrit une carte, j'ai écrit un mot.
Mais faire amende honorable, ça fait tellement de bien. Peu importe dans le temps, si ça fait 20 ans, 30 ans, ça fait du bien de s'excuser.
Mais ça me donne envie d'essayer de trouver les profs qui m'ont marqué sur les médias sociaux puis essayer de leur écrire un petit message. Je ne sais pas si je vais être capable, mais ça me donne envie de faire ça, moi aussi.
Nouveau info, Laurence Pellerin-Patenaude. Le passeport vaccinal sera bel et bien obligatoire dans les SAQ et les SQDC.
Ouais, dans un peu plus de 10 jours, à partir du 18 janvier exactement, faites un X sur votre calendrier. Le gouvernement Legault qui prévient qu'il y a plusieurs autres services non essentiels, dont par exemple les soins personnels, comme les salons de coiffure, qui vont être ajoutés dans les prochaines semaines. Le passeport vaccinal sera aussi éventuellement élargi. On aura besoin de 3 doses plutôt que 2. Le gouvernement se dit forcé de prendre ces décisions-là en raison de la flambée des cas provoqués par le variant Omicron. On écoute d'ailleurs le ministre de la Santé, Christian Dubé.
On pourrait être tenté de dire que ça serait plaisant de les emmerder. Là. Je pense que c'est M. Macron à qui vous référez. Là. Mais moi, je pense que le premier objectif, c'est de limiter les contacts. Puis le deuxième objectif, c'est de les protéger contre eux-mêmes. S'ils ne veulent pas se faire vacciner, bien qu'ils restent chez eux.
Les hospitalisations liées à la COVID-19 continuent d'ailleurs d'augmenter au Québec. Hein. C'est pas pour rien qu'il a dit ça. On signale 1953 hospitalisations, soit une hausse de 203 comparativement à mercredi. La province a aussi confirmé 15 874 nouveaux cas détectés par des tests PCR. Je vous rappelle que c'est un nombre qui est sous-estimé parce que la situation réelle dans la province, en raison de l'accès limité au dépistage, est pire que ça. Cinéplex met à pied temporairement près de 1000 travailleurs. La fermeture des salles de cinéma décrétée par Québec en décembre, c'est sûr que ça fait mal à l'entreprise. C'est la deuxième année d'affilée d'ailleurs que les salles de cinéma sont privées de l'achalandage du temps des fêtes, la période la plus lucrative de l'année. Et je termine avec cette saga des influenceurs qui ont fait la fête dans un avion nolisé en route vers le Mexique. Ça continue de nous surprendre. Ben oui, on a encore des nouvelles informations. Oui. Selon les nouvelles qui sont partagées par la presse, oui, il y a certains passagers qui avaient de faux passeports vaccinaux, d'autres qui n'en avaient tout simplement pas. Imaginez-vous donc. Oh. Comment c'est possible de faire ça? Moi, c'est la question que je me suis posée d'emblée, mais c'est qu'il y aurait eu confusion au sein des employés de la compagnie aérienne. Tout le monde était assis dans l'avion. On ne savait plus si on avait vraiment vérifié ou non les passeports vaccinaux. Je rappelle qu'une personne qui présente un faux renseignement sur son statut vaccinal s'expose à des amendes, puis on ne parle pas de 500$, là, c'est 750 000 $ Il y a même de la prison là-dedans. Fait que, ouais, c'est pas cute.
Moi, j'ai même vu une histoire révélant qu'une influenceuse avait dit avant de partir qu'elle avait testé négatif. Puis finalement, elle avait la COVID. Okay. Puis elle a dit non, mais j'étais à la fin. J'ai testé positif, mais c'était juste un petit positif, tu sais, qui signifiait que j'étais plus vraiment contagieuse. Hey, t'as testé positif? T'es positive à COVID, ma chum.
Il y a un degré de positivité.
Ben, je la pauvre part en dessous, des fois, là, elle peut être plus pâle, plus foncée. Puis là, c'est aléatoire. Hein, on interprète, mais je pense pas de même pour les tests de grossesse.
Mais c'est ça, je m'en allais dire.
Un petit peu enceinte. Mais pas beaucoup.
On a une question pour toi qui vient de Lise. Bonjour la gang, une question pour Vincent. Est-ce que c'est toi qui joues Guy-Jean dans Les Mutants?
Oui, c'est moi qui joue Guy-Jean dans Les Mutants.
C'est quoi ça, Les Mutants? Puis c'est
les
qui,
Mutants,
Guy-Jean?
C'est une série Télé-Québec qui est une série un peu fantastique où des gens, il y a une mutation des légumes, si on veut, de l'agriculture, qui fait que les jeunes ont muté, une famille a muté, et je joue un méchant là-dedans de la compagnie qui fait les engrais et les pesticides, qui vient kidnapper une jeune fille. Je suis vraiment un pas fin et j'ai eu un gros plaisir à jouer pas fin. Puis d'ailleurs, je m'en suis rendu compte assez vite parce que je suis arrivé à l'école de mes enfants. Puis là, les enfants me regardaient comme si j'étais le pire truc de l'univers.
Oui.
Puis là, j'ai fait « Ah, tiens, les mutants sont rentrés en
ordre. » Ah, c'est bon.
C'est bien.
J'ai lu un article, puis j'avais hâte de vous en parler. C'est un article de la presse intitulé « Choisir l'usager ». Donc, dans l'article, on peut lire plusieurs exemples de gens qui ont choisi vraiment, eux autres, d'arrêter d'acheter du neuf une fois pour toutes, dont Suzanne Michaud. Elle, quand ses enfants étaient petits, petit, elle a pris l'habitude de magasiner dans les friperies. Elle y va encore aujourd'hui, puis les objets, aussitôt qu'elle en a plus besoin, elle les donne aux suivants sur des groupes Facebook. Il y a l'analyste Elliot Muller qui rappelle que plus on utilise un objet longtemps, ben moins il va être nécessaire d'en produire un nouveau.
C'est vrai.
C'est pas bête.
Écologiquement, ça nous donne un méchant gros coup de main.
Incroyable. Est-ce que vous êtes genre à acheter usagé?
Bien, moi, je tripe sur les friperies.
Oui.
Il y a des friperies, mettons, le Village des valeurs, où tu peux quand même vraiment trouver de belles pièces, de la vaisselle aussi. Moi, j'achète ma vaisselle là-bas, puis c'est très peu coûteux. Mais il y a d'autres friperies un peu plus high-end, où là, on vend des morceaux vintage, mais des marques. Puis là, ça peut facilement coûter cher. Fait que ça dépend de ton
budget.
Mais
ça coûte moins cher que si tu achetais le vrai Gucci.
Absolument. Puis aussi, c'est que tu donnes une deuxième vie à une pièce qui est déjà utilisée. Donc, encore une fois, écologiquement, c'est intéressant.
T'aides directement une petite entreprise qui est une friperie qui revend ça, qui se prend une petite cote là-dessus versus une grande chaîne. T'en fabriques pas d'autres. Moi, les enfants, c'est que du linge usagé depuis toujours. Je suis pas capable d'acheter. Même pour moi, il faut dire que j'ai travaillé longtemps sur des plateaux enfants, puis je me faisais donner le linge ou j'achetais le linge à pas cher. Fait que moi, acheter du linge, ça n'existe pas. Ce que vous voyez sur moi en ce moment, c'est des restants d'entrée principale à Radio-Canada.
Ah,
moi,
ben, tant mieux.
J'haï aller acheter du linge neuf. Ah, oui. Ça me rend fou. Même pour le budget de l'émission, il fallait en acheter, puis ça me met en colère. Je suis comme, genre, il est encore bon, ce chandail-là. Ça, puis les friperies, comme les Renaissance et compagnie, entre autres, Renaissance, c'est pour replacer des gens
c'est
à l'emploi.
Extraordinaire.
Donc, c'est vraiment une cause qui sert beaucoup. Après ça, il y a d'autres endroits où je suis pas capable. L'électronique, j'y arrive pas. L'électronique, faut tellement que je sois. C'est une maladie, là.
C'est ça,
moi, je suis pas dépensier.
Maniaque.
Mais moi, la nouvelle sorte arrive. T'sais, des fois, mon téléphone tombe à terre, je fais es-tu cassé? Il n'en est pas cassé. Je peux pas en acheter un autre.
C'est un problème. Qu'il soit cassé.
Mais c'est ce qui fait que je redonne mon matériel électronique.
Oui.
Mon ordi, je l'ai retapé, il était comme neuf. Mon père qui est là. Ma copine a pris mon autre téléphone.
Mais c'est bon.
Il y a une fois dans ma vie qu'une recherchiste voulait un iPad, puis elle m'a demandé un prix. J'ai dit un prix, puis je m'en veux encore. Je le redonne après.
Oui.
Ah, bon,
ça, je fais ça parce que j'aime ma maladie.
Oui.
Mais pour le reste, les vêtements, ça, très, très, très usagé. Et les animaux, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais plutôt qu'aller acheter un animal
dans un chenil ou
dans une animalerie encore moins,
on
parlait avec une spécialiste des animaux pour un autre projet, puis elle disait, allez chercher des animaux qui ont une vie.
C'est-à-dire
usagés. Ils ont vu des humains, ils sont propres.
Les SPCA, c'est rempli d'animaux qui demandent juste à avoir un maître.
Moi, j'ai deux chiens, puis mes deux chiens, je les ai eus quand ils étaient bébés, mais j'ai dit à mon chum, la prochaine fois qu'on va se chercher un chien, on va aller dans un refuge, puis on va prendre un vieux chien de 9, 10 ans, 11 ans qui a eu une vie tough, qui veut juste être aimé, puis qui a tellement d'amour aussi à donner en retour, puis c'est lui qu'on va prendre, puis on va peut-être en prendre un deuxième aussi, puis on va leur donner une magnifique fin de vie.
C'est vrai pour les humains aussi. Idéalement, quand tu recommences une relation avec quelqu'un, tu veux qu'il ait fait des erreurs.
Oui,
que ce soit
plus usagé.
35 ans, j'ai jamais eu de relation. Ça se peut qu'il faut que tu y apprennes des affaires.
T'as raison. Non, l'usager, c'est le fun. Est-ce que vous réparez vos affaires?
Ben, j'essaye, Joël, mais est-ce que ça fonctionne? Jamais.
C'est comme le riz au ketchup.
C'est comme le riz au ketchup, mais...
On n'y arrive pas.
Non, c'est ça. En ce moment, j'ai plein de machines. C'est un juicer, un blender.
Oui.
C'est chez moi parce qu'ils sont brisés, puis je veux pas juste les mettre au vidange.
Oui.
Là, c'est vraiment pas écologique, mais je sais pas quoi faire avec ça. Je suis sûre que je pourrais les réparer puis les utiliser encore pendant longtemps, mais je sais même pas où me rendre
pour
les réparer.
Il y a beaucoup d'endroits où moi, je me suis pointé avec des trucs brisés comme ça, puis la personne dit, ça, je répare pas ça.
Ah oui.
C'est ça.
C'est dommage.
La pièce sur le toaster est tellement loin qu'il dit là, il faut que je démonte ça, que je démonte ça, que je démonte ça,
exact.
Que je change telle pièce, elle va casser. Là, je te mets, je te change la pièce, puis je le referme. Ça va coûter à peu près 75. Avec le temps, t'es rendu, je sais pas moi, 110. C'est un toaster à 19.
Ah oui.
Fait que c'est fait pour pas qu'on. Idéalement, il ne faut pas les briser.
Mais les compagnies aussi font leurs électroniques avec l'idée qu'ils aient
une
date de péremption à un moment donné, parce que sinon, on ne consomme plus. Si notre char il dure 30 ans, si notre ordi dure 20 ans, on ne consomme plus, on n'en achète plus de nouveau. Donc, c'est ça l'objectif. On les utilise quelques années, ça pète, puis on en achète. T'sais.
Mais il y a des articles qu'on devrait toujours acheter usagés, entre autres nos chars.
Ah,
oui.
Moi, c'est ce que je fais. Tu vois,
j'ai
jamais acheté une voiture neuve. Là, j'ai eu un char de 2012.
Avoir ta voiture, tu n'as sûrement pas acheté.
C'est ça.
Parce que tu aurais 95 ans.
Oui.
Tu l'as sûrement réparé toi-même comme ton blender.
Ouais, j'ai mis des
tape.
De tape, c'est
oui,
ça.
Ça, c'est sûr. Les jouets aussi.
Ben oui.
Pourquoi acheter ça neuf, des jouets? Ben, tu vois, tu parlais de Village des valeurs, il y en a plein de jouets qui ont du bon sens. Là, puis c'est, pas... c'est sûr, il faut laver, puis il faut organiser, mais les enfants aiment ça, les affaires vintage en plus.
Pour vrai, il faut laver. Ils jouent avec ça à la garderie. Tous les jouets de la garderie, puis du CPE, puis de, du service de garde, ils s'y mettent dans la bouche, ils remettent ça là. Tu peux acheter ça, usagé. Il y a juste un enfant qui a mis sa bouche là-dessus au lieu de 17.
Oui,
t'as pas de problème.
Effectivement. Il y a l'entreprise Minilou que j'adore, située à Repentigny. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prêtent des vêtements pour les enfants. Mettons, t'as une noce, t'as une fête de Noël, bien, la petite fille va avoir une robe de princesse. Tu la loues, la robe de princesse, au lieu de l'acheter. Mmh. De toute façon, ça fait combien de temps une robe à une petite fille? Elle va en mettre une fois, deux fois, trois fois, puis ça, va être fini.
C'est ça.
Alors, l'entreprise loue des vêtements pour enfants.
Les joujoutecs aussi, il y en avait moi beaucoup quand j'étais petit. Il y en a, mais il y en a moins, on dirait qu'avant. Mais tu allais chercher tes jouets, tu jouais avec deux semaines, puis tu étais tanné. Au lieu de le mettre dans la garde-robe, tu le prêtais à quelqu'un d'autre.
Fait longtemps que je n'avais pas entendu ça, joujoutec.
Ouais, hein?
Ah oui?
Ça prouve mon âge. 33 ans, monsieur.
On est en janvier. L'heure est aux différents bilans. Puis ce matin, j'ai envie de parler des mots qui ont marqué 2021. Donc, selon la presse, plus, c'est les mots qui ont marqué 2021. Si je vous dis féminicide...
C'est un mot tough là, qu'on a entendu beaucoup, malheureusement. C'est un phénomène qui... mais c'est un problème qui a été exacerbé par ce contexte de pandémie. Puis...
C'est drôle, moi je pensais que c'était un mot inventé de cette année, mais son origine remonte au 17e siècle. Oui. Fait que ce mot-là, féminicide, n'a jamais été aussi tragiquement actuel, malheureusement.
C'est triste qu'on ait dû le nommer, mais une chance, on a nommé ça cette année.
Oui.
Parce que ça fait plusieurs années qu'on essaie de... Les gens dans les médias essaient de mettre ce mot sur ces drames-là, sur cette situation-là. Puis je me rappelle encore dans l'année, effectivement, des animateurs, des animatrices de radio qui disaient « Coudonc, c'est un nouveau mot, si on invente un nouveau concept? » Puis les gens disaient « Non, c'est... Il est temps qu'on nomme les choses telles qu'elles sont, qu'on nomme même les polytechniques. » On n'utilisait pas ce terme-là alors
c'est
que
vrai.
Ça en est un.
Mais au moins, ça a eu l'avantage de faire jaser de la violence conjugale parce que ça se passait aussi avant la pandémie.
Bien
mais
sûr.
Là, ça, vraiment, ça a augmenté d'un coup. Puis là, on est vraiment plus sur le dossier. Le gouvernement aussi commence à prendre action. Il y a des groupes, des organismes aussi. Donc, c'est tragique tout ça. Mais au moins, là, on commence à essayer de trouver des solutions pour protéger nos femmes davantage.
Tout à fait. Le mot pénurie aussi. Hein, en 2020, la pénurie de papier de toilette. Là.
Je te dirais qu'au 17e siècle, il y avait pas mal de pénuries aussi.
Oui, c'est
moi, je pense que ce mot-là, il était vraiment maudit au Moyen-Âge puis à la Renaissance.
Peut-être plus qu'aujourd'hui.
Pas mal plus qu'aujourd'hui.
Je le sais
papier
bien.
De toilette, il n'avait pas point. Mais
exactement.
Oui, c'est vrai qu'on a manqué de bien des affaires.
C'est ça, comme de travailleurs, infirmières, psychologues, agents de la DPJ, mais aussi une foule de produits, du bois, électroménager, chauffe-terrasse, motoneige. Tout ça, c'est une pénurie. Bon, est-ce que c'est grave de ne pas avoir ta motoneige? Peut-être pas, il y a des affaires pires que ça.
C'est ça. Mais la pénurie de personnel est pire que la pénurie de papier toilette. Mais vous, est-ce que vous avez été du genre, dans le début de la pandémie, à paniquer un peu puis aller acheter des cannes de conserve puis redoubler sur le papier de toilette? Ou vous êtes
c'est très drôle
là-dedans?
Parce que j'ai eu je vais être très honnête, j'ai eu un peu de panique. Je me suis dit, peut-être qu'il n'y aurait plus jamais de papier de toilette. Puis on est cinq à la maison. Mmh. Fait que je me suis garoché à la pharmacie du coin. Et là, il restait pour vrai une affaire de rouleau de papier de toilette là, avec genre 18 rouleaux dedans. Et il y a une madame, mais tellement folle, elle m'a coupé à pogner le papier et est partie. OK, moi, j'embarque pas là-dedans,
non,
par exemple.
Non,
on dirait qu'elle m'a sauvé la vie. Je fais, hey, pour vrai.
On est-tu rendu là?
Prendra du Scott Towel ou
ben
je prendrai des guenilles que
ben
je découperai.
Oui.
Là, ça va faire le niaisage. Ouais. Puis ça m'a complètement ramené. Je ne suis pas embarqué dans cette folie-là, grâce à madame.
Mais c'est vrai que le mot est revenu. Moi, je pense que c'est l'affaire que mon père m'a dit le plus souvent cette année. Il me dit, ah, ça a l'air qu'il va y avoir une pénurie de chlore. Il n'y a plus de chlore, là, chez le
Ah oui,
ça a l'air qu'il va y avoir une pénurie de patates. Il m'a dit ça.
Même les
patates.
Petites saucisses cocktail.
Oui.
À un moment donné, tout le monde pensait qu'à Noël, il n'y aurait pas de petites saucisses cocktail. Mais c'est pas grave. On mangera d'autres choses.
Hé là là.
Inflation. Aussi hein, du marché immobilier jusqu'à l'épicerie. Les prix ont vraiment grimpé en flèche en 2021. Mmh. C'était pas nécessaire, ça,
non
pour
plus.
Vrai. Pensionnat.
Ah oui.
Mmh.
Ça aussi, c'est un mot qu'on utilisait beaucoup quand on était jeune, de façon un peu... C'était la menace irréelle. T'sais, moi, le mot pensionnat, les parents disaient « m'envoyer au pensionnat, arrête de chialer, m'envoyer au pensionnat », mais c'était comme une affaire qui n'existe pas. Là, c'est bien réel, on a vu dans quel contexte ça a existé avec les Autochtones, puis c'est donc devenu un mot beaucoup plus concret que ça l'a déjà été.
Tout à fait. Pour avoir été pensionnaire pendant 5 ans, le mot pensionnat, on fait juste le dire, puis j'ai...
T'as un frisson,
j'ai un frisson, je me suis suis pas guéri de ça, du pensionnat.
Sans même, tu sais, le pensionnat, non, non. Sans même les violences que
tout à
ont
fait.
Vécu,
fait que
là, en plus, imagine.
Ah, ouais. En tout cas, on déracinait ces enfants-là de leur culture, de leurs parents.
C'est épouvantable.
Mais au moins, on en a parlé cette année. Oui. Il y a eu des excuses qui ont été faites. On dirait qu'il y a quelque
on
chose qui
s'en
vient, un vent
de
solidarité
de
derrière ça. Ouais.
Jojo, Jo, Annie. On a trop sur Jo, Annie. Yeah!
C'est ça, 11 minutes. Vas-y, parle-nous de ça. Tu t'es posé une grosse question dernièrement.
Oui. Je me demandais, tu sais, pourquoi est-ce qu'on a parfois le réflexe en tant qu'humain de penser que quelqu'un ou quelque chose est hors de notre ligue, hors de notre portée? Puis, je me pose cette question-là parce que dans les dernières semaines, l'un des sujets qui a fait les manchettes aux États-Unis, c'est le nouveau couple formé de Kim Kardashian et de Pete Davidson. Si vous ne connaissez pas Pete Davidson, c'est un acteur et humoriste qui fait partie de la distribution du très populaire show SNL, donc ouais. Saturday Night Live. Puis ce nouveau couple-là, cette nouvelle romance-là fait jaser parce que tout le monde se demande comment il fait Pete Davidson, qui n'est pas considéré, selon l'opinion populaire, comme un homme conventionnellement beau.
C'est pas un standard.
Non, c'est ça. Comment
un canon.
C'est ça. Comment il fait pour sortir avec les femmes les plus attirantes et célèbres de la planète? Parce que oui, avant de sortir avec Kim Kardashian, il a fréquenté aussi Ariana Grande, Kate Beckinsale, Phoebe Dynevor, qu'on a connue dans la série Bridgerton.
My
et
God.
Kaia Gerber, qui est une top modèle et aussi la fille de Cindy Crawford.
Hein? Ouais, donc, ça va bien, ces affaires.
C'est ça. Alors, bref, les gens comprennent pas comment un gars comme lui, d'apparence dite moyenne, fait pour pogner autant. Moi, je trouve ça tellement blessant. T'sais, on y fait comprendre qu'il est lettre, mais sans utiliser mots-là. Pour vous donner un exemple, voici quelques titres d'articles qui portent sur Pete Davidson qui circulent présentement en ligne. Alors, on a... Mais pourquoi les femmes sont-elles si attirées envers Pete Davidson? Ou encore, comment expliquer le succès que connaît Pete Davidson auprès des femmes? Et mon préféré, voici la raison scientifique qui explique pourquoi les femmes aiment tant Pete Davidson. Franchement, t'sais, pauvre gars, voir qu'on essaie d'expliquer puis justifier scientifiquement son succès avec les filles. T'sais, c'est pas un monstre. Là. Moi, personnellement, je le trouve cute.
Ben oui, je suis allé le voir, moi, à cause que tu m'as dit que tu allais parler de ça.
Ouais.
Je le trouve très joli, ce garçon. Ouais.
Ben oui, puis.
Mais c'est pas. Je comprends pareil. C'est pas Brad Pitt.
Ouais.
C'est pas le gros, le gars musclé, t'sais, qui correspond nécessairement au standard d'Hollywood.
Mais je trouve qu'il y a un charme.
Mais c'est sûr qu'il
doit
avoir quelque chose.
Il est charismatique. Moi, je l'ai toujours trouvé. Trouvez bien cute ce gars-là. Sur Twitter, il y a même une personnalité connue qui a écrit « Hey, Pete Davidson devrait offrir un cours professionnel sur comment dater au-dessus de sa ligue. » Ça me fâche tellement. Alors, je trouve qu'il faut arrêter dès maintenant de penser qu'une personne est hors de notre ligue parce qu'en faisant ça, les gars, on entretient l'idée qu'il y a une hiérarchie chez les humains, une hiérarchie qui est basée, entre autres, sur l'apparence physique.
Ben oui, c'est sûr.
Ceci dit, il y a une hiérarchie quand même à Hollywood. Puis lui, à partir du moment où il sort avec la fille de Cindy Crawford puis une autre, entre vous puis moi, ce milieu-là qui est beaucoup dans les apparences, Kim Kardashian a dit, si Ariana Grande l'a eu, pourquoi pas moi?
Exact.
Il y a de la valeur au fil du temps, lui-là. Oui. C'est exponentiel.
Il a fait des
là.
Bons investissements.
Ben oui.
Mais regarde, c'est un très bon point que tu apportes. Je vous disais tantôt qu'il y a un article qui essayait de trouver la raison scientifique derrière cet attrait-là qu'on a pour Pete Davidson. Puis c'est carrément ça. Il y a des études qui auraient démontré qu'on a tendance à désirer davantage ceux qui sont déjà acceptés par les autres. Autrement dit, si un gars ou une fille a fréquenté des gens hot avant toi, mais tu vas automatiquement être plus attiré envers lui. C'est exactement ce que tu viens de dire. Puis je me demandais, est-ce qu'on vous a déjà dit, Joël puis Vincent, que vous n'étiez pas assez bon ou beau dans la vie pour quelqu'un ou même pour une job, tu sais, en audition ou quelque chose comme
3500 fois!
Oh, ouais.
Bien plus souvent ça que le contraire!
Pour une personne que vous voyez faire un rôle, il y en a 10 autres qui se sont fait dire « C'était presque toi! »
C'est sûr
et certain.
Ouais.
Puis nous deux, on était souvent dans le « C'est presque toi! »
Mais pas assez beau, ça, c'est rare quand même que tu te fais dire ça en audition.
Oui,
c'était toi, mais t'es pas assez beau.
Non,
c'est
sûr que ça manque de délicatesse. Ou mettons une fille, tu sais, qui te dit, ouais, finalement, je t'ai étonnée de sortir avec toi parce qu'il me semble que normalement, je sors avec des mecs plus beaux. Est-ce que. Je te dis pas que t'es là, c'est pas ça du tout. Je pose la question.
Non, écoute, tu le trouves cute, Pete Davidson, fait que je prends ça comme un compliment. Non, ben là, si tu sors avec quelqu'un qui te dit, c'est quand même étonnant. D'habitude, je sors avec du monde plus beau, je sors pas avec cette personne-là, flush cette personne tout de suite. Mais cette notion-là de ligue qui est quand même, qui était présente au secondaire, qui était dans la ligue de qui, on se dit, quand on va être adulte, ça n'existera plus. Mais si on met ça dans la tête de nos adolescents vite, puis on laisse vivre ça, ben ça existe plus tard.
Ouais.
Mais on se le met tout seul dans notre tête, la ligue. T'sais, moi, je venais de la campagne, j'étais pensionnaire dans un pensionnat où les gens avaient beaucoup de sous, mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. Donc moi, la ligue des Lacoste, là, ceux qui avaient chandail Lacoste, ouais, je pouvais pas être dans cette ligue-là. Fait que j'étais dans la ligue des Fox, oui, ceux qui avaient le petit renard au lieu, oui, du petit crocodile, puis c'était ça qui était ça.
C'est vrai.
Je savais que c'était ça mon rang, puis je le tenais de même, mon rang. T'sais, fait que... Mais c'est pour ça que mes enfants, aujourd'hui, ils ont des costumes à l'école que j'ai choisi. Donc, on ne peut pas avoir de...
Il n'y a pas de catégorie.
Il n'y a aucune
catégorie.
Pour moi, c'est important, ouais, parce que j'ai souffert de ça étant, oui, jeune.
T'sais, vous savez, l'acteur Paul Rudd a été proclamé homme le plus sexy, ah, du, oui, monde par le magazine People. Puis suite à ça, les gens ont été curieux puis sont allés voir à quoi ressemblait son épouse. Puis les commentaires qui ressortaient après ça, c'est « Ben voyons donc, est-ce tombé un pichou? » T'sais, Paul Rudd, qu'est-ce qu'il fait avec cette femme-là? Il y a Denzel Washington et Hugh Jackman qui sont mariés avec des femmes qui sont un petit peu plus...
En chair,
qui ont de magnifiques coups. Puis c'est le même commentaire qui revient. Mais voyons, Denzel puis Hugh Jackman, qu'est-ce qu'ils font avec ces femmes-là?
C'est effrayant.
Je trouve ça poche.
Il y a physique, puis il y a aussi le statut social. Parce qu'il y en a après qui disent, mais voyons donc, toi, tu travailles à la télé, puis tu travailles, tu es avec quelqu'un qui est livreur, par exemple.
Ben oui.
Tu sais, on a vu des gens
mais
raconter, présenter
faire,
qui étaient leurs amoureux, leurs amoureuses. Puis les gens se déchaînaient après pour dire, ben voyons, comment ça, t'es pas avec quelqu'un de ton statut social, médiatique. Ouais. C'est effrayant. Ah. Les gens t'apportent ce qui t'apporte dans la vie. S'il faut sortir avec notre pareil, ben,
on peut pas expliquer qu'est-ce qui rend quelqu'un attirant. Il y a une connexion, il y a une chimie, puis ça n'a rien à voir, ouais, avec le statut, ouais, l'apparence,
bonté,
physique.
La beauté,
mais on va se dire les vraies affaires. Nous autres, la gang du matin, on est dans la ligue des bouche-trous.
Yes, sir!
Parce qu'on est là pendant le temps des fêtes. Si on finit aujourd'hui, puis on l'accepte,
oui,
avec plaisir.
Oui, je place pendant que vous êtes des bouche-trous. Mais ben, tu comment je suis heureux?
T'es un double bouche-trou.
Vous écoutez la gang du matin. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en semaine dès 5h30. Le matin, toujours plus de hits. Toujours fantastique.
Rouge.
6h36 minutes, on a tellement hâte de lui jaser. Bonjour Geneviève Côté.
Bonjour Joël.
Comment ça va?
Ben ça va bien, bonne année.
Hey, merci, bonne année à toi aussi. Et justement avec la nouvelle année qui vient de débuter, là, pourquoi pas bien la commencer puis se donner pour résolution de lâcher prise dans notre sexualité?
Oui, en fait, hein, lâcher prise, ce mot qu'on entend souvent,
oui,
avec la pleine conscience, en fait. La pleine conscience, c'est un mot qu'on entend souvent. Des fois, ça peut être pas très clair, c'est quoi exactement,
ouais,
particulièrement dans la sexualité. Dans le fond, on entend souvent présence attentive ou pleine présence,
ouais,
mais c'est être concentré, attentif au moment présent, aux choses qui nous entourent, à notre ressenti. Donc, c'est vraiment faire consciemment attention au moment présent sans porter de jugement. Donc,
okay,
c'est sûr que ça veut dire de ne pas être sur le pilote automatique.
Ouais.
Et ça permet de reprendre un certain pouvoir sur sa vie en étant dans l'ici et maintenant qu'on appelle. Puis ça nous permet aussi de pas tenter de prévoir, hein, parce que on l'a tous et toutes vécu, tu sais, ce moment où on est dans notre sexualité et que là, on dit, oh non, je peux pas prendre cette position-là,
oui,
il va voir mon bourrelet, bon, c'est un exemple que je donne, mais bon, à ce moment-là, évidemment, on n'est pas dans l'ici maintenant. À ce moment-là, on anticipe qu'il nous trouvera pas belle, il nous trouvera pas beau et tout ça. Donc, la pleine conscience permet de ramener justement ces pensées-là, de ramener ces sensations-là ou ces émotions-là qui peuvent être désagréables comme la gêne, la honte. Et la pleine conscience va aussi beaucoup aider au niveau des dysfonctions sexuelles.
Mmh.
Donc, c'est vraiment un outil. En fait, là, c'est important de dire, c'est un des mécanismes et des traitements les plus étudiés dans la littérature scientifique concernant la sexualité. C'est vraiment très, très étudié parce que c'est assez efficace. Ça peut être efficace pour plein de choses. Là.
Et justement, quand tu as été victime de trauma dans ta sexualité, ça doit sûrement aider?
Oui, beaucoup. Par contre, la nuance à faire quand on a été victime de trauma, c'est qu'on ne peut pas pratiquer la pleine conscience nécessairement comme, je vais dire, là, monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas vécu de trauma, que ce soit un abus, soit de la maltraitance,
ouais,
ou quoi que ce soit, bon, qui s'apparente à ça. Idéalement, il faut être accompagné d'un professionnel parce que,
oui,
être dans la pleine conscience, c'est porter attention, comme je disais, aux émotions, aux sensations, mm-hmm, hein, c'est se focaliser là-dessus. Donc, s'ils sont très souffrantes, s'ils sont douloureuses, ces sensations, ces émotions-là, ben, on a besoin de l'aide de quelqu'un. Mm. Par contre, exemple, là, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui voudraient l'essayer, c'est important, avant la pratique sexuelle, de d'abord évaluer si on est disposé physiquement, mentalement, émotionnellement à avoir une pratique sexuelle. Et là,
oui,
c'est une pratique sexuelle, hein, parce que la pleine conscience, on peut la pratiquer même seule avec la masturbation. On n'est pas obligé d'être avec quelqu'un. Mm-hmm. Il faut favoriser l'état, l'environnement dans lequel on est. Donc, on va ajuster l'éclairage. On va
idéalement... Ouais, on se fait une petite mise en scène, là.
Exactement, exactement.
Un petit mood.
On se met vraiment dans une ambiance, prendre une douche, un bain pour se détendre physiquement. Idéalement, prendre quelques respirations avant pour favoriser le contact avec le moment présent, favoriser le contact avec son corps. Et pendant la pratique sexuelle, c'est le point le plus important, là, c'est être dans ses cinq sens. Donc, porter attention à ses sensations corporelles, oui, à ses organes génitaux, au plaisir qu'on ressent dans nos organes génitaux, mais aussi et surtout porter attention aux autres parties de notre corps qu'on a tendance à oublier parfois. Je sens que même ma peau est toute mouillée, je sens que j'ai une petite tension dans mon cou parce que je me raidis, je sens que j'ai la chair de poule qui monte jusqu'en arrière de mes oreilles. Donc porter attention à nos cinq sens. Ça goûte salé dans ma bouche. Donc vraiment y aller là dans le fond c'est de ressortir qu'est-ce qui me dit que je suis excitée. Ouais. Qu'est-ce qui me dit que j'ai du plaisir? C'est ces signes-là auxquels il faut porter attention, tout en portant attention à sa respiration, parce que la respiration va permettre de réguler la réponse sexuelle, c'est-à-dire l'orgasme. Hein? Quand la majorité des gens, quand on est prêt de jouir, ben la respiration va devenir saccadée, va devenir rapide. Donc ça, c'est un exemple que si on fait de la pleine conscience et on porte attention beaucoup à notre respiration, exemple, les hommes qui vont avoir une éjaculation prématurée, ben ça va les aider. Alors ils vont porter attention à leur respiration quand ils vont sentir oh ça s'accélère, ils vont savoir il faut arrêter, il faut changer de position. Ok, ben, je vais embrasser ma partenaire, mais je vais me retirer. Donc c'est le genre pour ça je dis que ça peut aider pour les dysfonctions sexuelles là.
Wow, mon Dieu, c'est tellement intéressant de t'entendre parler. On dirait que j'aurais envie que ça finisse là. Puis que...
Oui, on
a ça donne envie d'essayer.
Mais
en fait, ça me donne envie d'essayer. Hein? Vous avez le goût
d'être plus conscient.
C'est ça.
Je comprends exactement. Ce qu'est la pleine conscience.
Puis ça va nous aider à être moins dans la performance. Ah, on se met beaucoup de pression pour performer au lit, les positions, comme tu disais. Mais là, de juste prendre ça un peu plus calme puis d'être à l'écoute de son corps, je pense que ça peut aider bien du monde.
Et pour le consentement aussi. Ça, ça veut dire que si t'es là, puis que tu peux te permettre de dire « Hey, sais-tu quoi? Ça me tente plus. Je te collerais, je ferais autre chose. » On peut être à l'écoute de l'autre puis à l'écoute de soi aussi là-dedans. Puis plus être dans « Bien là, ça faisait trois jours, faudrait bien finir. » Non, tu as le droit de commencer, arrêter quand tu veux. Tout ça, ça fait du bien.
Exactement, ça c'est un bon point parce que ce qui est bien avec la pleine conscience, c'est que ça nous permet de toujours être en contact avec notre sentiment de sécurité, toujours être en contact avec notre sentiment de confort. Donc ça se peut qu'à un moment donné, pendant une relation sexuelle, on était bien et là soudainement, il s'est passé quelque chose, on n'est plus bien. Si on est dans la performance, si on est dans, il va penser que ça, on n'est pas dans le lycée maintenant, et c'est normal, on en vit tout. Des moments comme ça où nos pensées nous amènent ailleurs, nous amènent hors du moment présent, hors de la connexion avec l'autre. Mais la pleine conscience nous permet de nous ramener et vraiment de se rattacher à « Ok, est-ce que je me sens réellement bien à ce moment-ci? » Ou si ça nous permet de communiquer à l'autre. Tu sais, on est ailleurs, ben c'est
difficile
que l'autre sache qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, comment on se sent. Parfois, c'est dur à voir pour l'autre personne.
Mais c'est tellement important. Merci beaucoup, Geneviève.
Merci.
C'était super intéressant.
Vraiment. Merci.
Bonne suite.
Vincent Bolduc, tu t'es mis à la place des professeurs.
C'est la chose qui est la plus importante dans la vie pour comprendre les gens. Il faut se mettre à leur place. Puis là, en ce moment, on se met à leur place plus que jamais.
Ah, oui.
Je vais juste vous donner quelques minutes si vous êtes, si vous êtes encore debout. C'est sûr que vous êtes debout, en train de préparer tout ça. Ça fait des jours que vous avez programmé les rencontres virtuelles, fait des horaires, programmé des ordis à l'école pour prêter des ordis. Et moi, à chaque annonce où on repousse le retour à l'école, bien sûr, je suis comme tous les parents, je pense à mon horaire pendant un instant, je pense aux autres parents. Et immédiatement après, je repense aux profs qui vont devoir enseigner dans ces conditions-là. Déjà qu'enseigner, c'est une vocation.
Absolument.
Le faire en ligne, c'est encore plus.
C'est pas possible.
Et donc, la meilleure façon, quand je dis la meilleure façon, c'est de se mettre à la place de quelqu'un. Moi, j'ai toujours été fervent de me mettre sur la liste des parents accompagnateurs, au CPE ou à l'école. Puis pas juste la fois le fun à la maison théâtre ou à la ronde, là. Aussi aller apprendre aux enfants à patiner, alors que je ne sais pas patiner. Puis que là, ils sont impatients, ça ne leur tente pas de mettre le patin.
C'est
juste marcher pour aller à la bibliothèque. Puis que là, tu les vois qui n'écoutent pas, qui traversent, qui ne pensent pas le temps, qui ne se tiennent pas par deux, qui chamaillent. Il y en a un qui part dans le parc. Il y en en a un qui s'assoit à terre. Un, ça permet de rencontrer les amis de tes enfants. Tu sais de qui ils parlent quand ils te parlent de Camille.
Oui, le petit Chris.
Mais
là,
tu sais c'est qui, le petit Chris aussi. Puis que tu dis, ah, je comprends pourquoi ça ne te tente pas de voir le petit Scott, mettons, pour l'appeler Scott, parce qu'il n'y a pas d'enfants beaucoup qui s'appellent Scott. Non. Dans mon entourage, comme ça, je suis sûr que...
Oui, tu ne blesses pas personne.
Mais c'est rien contre les Scotts. Mais donc, tu comprends les amis, mais tu comprends la prof aussi. Ouais. Tu vois ce qu'elle fait.
Son
et
travail.
Là, t'es rempli de gratitude pour un mois. Et là, je le sais que c'est pas facile en ce moment à l'école à distance, mais c'est une chance unique si vous n'avez pas le temps, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir le temps dans son horaire d'accompagner les enfants à l'école. Mais là, on a cette leçon-là à la maison. On le voit. On voit les petites faces pas concentrées qui font d'autres choses. Qui niaise, qui écoute
pas. Après 30 secondes, là, aussitôt que ça commence, là, sont déjà tannés.
Oui, puis là, tu vois l'élève qui essaie de chatter en privé puis d'appeler ton enfant.
Oh,
c'est comme si là, tu étais dans la classe puis tu vois l'autre qui essaye de parler pendant que la prof parle. Puis là, tu dis non, silence, écoute.
Oui.
T'es comme le père. Mais même si tu te tiens loin, enlevez les écouteurs des enfants puis écoutez comment le prof, d'abord comment les profs sont bons.
Patient!
Comment ils expliquent. Patient, puis comment il répète. Ça fait c'est une heure et demie qu'il dit ça va être quoi l'exercice qu'il faut faire. Puis quand il ferme le Zoom, l'enfant te regarde puis il dit je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Et j'ai dit, mais moi, j'étais en train de faire une chronique, d'écrire, de faire à manger, de ramasser la vaisselle. J'ai entendu qu'est-ce qu'il fallait faire. Je l'ai noté. Ça se peut pas que tu l'aies pas noté. Fait que là, il s'appelle en Zoom, il s'écrit pour se dire hey, qu'est-ce qu'elle a dit, la prof, qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que là, tu le vois bien que l'élève, après une heure et demie, il doit aller voir la prof pour lui demander quoi faire. Puis on fait même une partie de leur job parce qu'on fait après le travail à la maison.
Oui.
Histoire de nous permettre encore plus de se mettre à leur place. Là, ils disparaissent. Ils sont disponibles en Zoom, mais ils disparaissent le temps que l'enfant fasse son travail. Écoute, j'ai pas assez proche. Puis moi, là, je veux dire, mes enfants, ils travaillent à l'école. Ils ont du fun.
Oui.
Sont bonnes. Mais j'ai quand même manqué de faire manger son travail de maths et sa démarche mathématique. C'est, on tournait en rond. J'ai dit, mais t'as six...
Oui.
T'as six sacs d'oranges. Regarde-moi, t'as six sacs d'oranges. Il y a cinq oranges dedans. Le sac est 7 piastres. Combien t'en as besoin pour 22 élèves?
Oui, mais déjà là, moi, tu me perds. Fait que je peux très bien comprendre ta fille.
Là, je comprends pas la question. J'ai la question. C'est moi qui pose la question. Moi, je te pose la question. J'ai une question. Je dis, moi, attends, j'ai pas fini.
Oui.
C'est de combien il y a d'élèves? C'était, écoute, je me suis créé un personnage de M. Champlain. Je suis un prof.
Ah, oui.
Qui s'appelle M. Champlain. Okay? Et là, je leur dis, là, quand l'école commence, je suis pas papa. Je suis M. Champlain. Fait que tu peux pas me dire, j'ai faim. Non,
M. Champlain.
Mais c'est pas ça que j'ai pas le goût de manger. Non, ça, c'est la collation que je t'ai donnée à l'école.
C'est bon,
là,
ça.
Là, t'es à l'école, t'as des petits poissons puis des raisins. C'est ça que t'as. Tu peux pas venir voir ton père, tu m'appellerais pas si t'étais à l'école. Tu prendrais ta collation. viens me voir. Non, t'appelles pas M. Champlain de même. Tu viens voir M. Champlain. Puis je pense que même sans pandémie, il faudrait que chaque année, il y a une semaine, au moment où on... Juste avant les bulletins.
Oui.
Le moment où on a le goût de dire à nos professeurs, « Ouais, mais là, ma fille a eu telle note, mais as-tu vraiment appris ça?
Mm-hmm. »
Une bonne semaine d'école en virtuel pour qu'on regarde tout l'amour qu'on a pour les profs. Je vous le dis, là, en ce moment-là, c'est le meilleur moment si vous voulez négocier vos ententes collectives.
Oui,
comme les infirmières,
allez-y.
Comme le personnel en CPE. Jamais, jamais, on a autant... Appréciez votre travail, négociez tout ce que vous voulez. Moi, je vous le donne au centuple, c'est sûr.
Ouais. Hey Vincent, ma sœur est prof, puis c'est vraiment une vocation. Elle, on avait 6 ans, puis elle nous enseignait les leçons dans le sous-sol. Puis elle travaille la fin de semaine. Elle a ses propres enfants à gérer, mais est tellement dévouée, puis investie, puis elle répète, puis elle travaille fort. Et taboute, écoute, je la salue, je l'aime fort, puis vraiment une grosse salutation à tous les profs. Tu fais bien de parler de ça aujourd'hui.
C'était vraiment magnifique.
Puis on vous le souhaite, vous êtes bons en virtuel, mais on vous souhaite de retourner dans vos milieux naturels où vous nagez comme des poissons dans l'eau. Fait qu'on va vous sortir de vos petits bocaux pour retrouver vos locaux où vous êtes si extraordinaires.
Oh.
On vous aime.
On vous aime.
On va parler d'un sujet qui fait réagir, c'est sûr. On se rappelle que le pape François avait jugé un homme qui avait choisi lui d'une carrière qui a fait en sorte qu'il n'a pas pu avoir d'enfant. Et ça avait beaucoup fait réagir en ce sens que de quoi tu te mêles, le pape, de encore en 2022 nous
d'ingérer
nos vies. Mais cette semaine, il a dit ceci. Aujourd'hui, on constate une forme d'égoïsme. On voit que certains ne veulent pas avoir d'enfants. Parfois, ils en ont un. Et c'est tout. Mais ils ont des chiens et des chats qui prennent la place des enfants. Cela peut faire rire, mais c'est une réalité.
J'espère. Dis le gars qui n'a pas. Viens en gérer pour vrai, quatre. Exact. Nous autres, on a fait ça au chalet, là, gérer les trois enfants à l'école avec ma blonde, puis son gars plus jeune qui est préscolaire. Viens, François, viens deux jours voir gérer quatre enfants.
Avec ta belle robe et ta soutane.
Tu n'as
pas.
My gosh.
Bon, fait que donc, t'es considéré comme égoïste. Parce que t'as pas d'enfants puis t'as des animaux.
Ouais, ben, moi, c'est vraiment bizarre parce que jeune, là, je pensais que j'allais me marier puis je pensais que j'allais avoir des enfants. J'avais hâte de vivre ça parce que je l'ai, la fibre maternelle, avec mes chiens. Là,
oui,
je veux dire,
sûr.
Je les abais, c'est mes petits cocos.
Ah oui, pis, ils ont des couches puis tout.
Ben, ils ont des couches puis des tickets, des tucs. Pis, mais, tu sais, moi,
le papa m'a pas ça.
Non, non.
Mais la porte n'est pas complètement fermée. Je sais pas. Je me l'explique pas, mais on dirait que là, tu sais, j'ai 33 ans, puis je sais pas si j'en veux. Je pense que j'en veux pas autant que j'en veux, mais peut-être qu'à 36, 37 ans...
Est-ce que tu sens une pression? Est-ce que tu sens,
ben,
des fois?
En fait, c'est qu'on me pose toujours la question. Puis des fois, on me pose même pas la question. On me dit, ah, mais tu vas voir, quand tu vas avoir des enfants, tu vas réaliser que...
Oui.
Fait qu'on, on sous-entend tout de suite que je vais en avoir. Mm-hmm. Puis aussi, des fois, je me sens mal d'être fatiguée, puis de parler à une amie qui a des enfants, parce que c'est comme si j'ai pas le droit d'être fatiguée, moi qui n'ai pas d'enfants, parce qu'elle, elle a sa job,
bien
elle
sûr,
a sa vie, puis elle doit gérer des enfants. Donc, elle a le droit d'être à bout, mais pas moi, parce que comment puis-je comprendre? J'en ai pas des enfants.
Alors
fait
que t'as
des fois,
parfaitement le droit d'être à bout dans ta réalité, aussi. D'être fatiguée. On dit à tout le monde, quand t'arrives au bout du rouleau, t'arrives au bout du rouleau. Tu peux pas comparer. Quand quelqu'un est au bout du rouleau, il l'est. On arrête pas de parler de santé mentale. Quand t'es fatigué.
Oui,
t'as pas besoin d'être la famille gros avec 11 enfants pour être fatigué. Non. T'as le droit d'être fatigué avant.
Puis on a choisi d'avoir des enfants aussi. Là.
Oui.
Fait que c'est pas faire
on a choisi slash pas choisi parce que, comme dit Joannie, il y a une pression tellement forte de l'extérieur que ceux qui n'ont pas d'enfants se font dire qu'ils vont le regretter un jour, alors qu'il y a tellement de gens qui ont eu des enfants et qui le regrettent puis qui ne sont pas capables
c'est
de
un
le
bon
dire.
Point, ça.
C'est
puis
vrai.
Disent, et puis j'ai vu un livre fantastique de plein de femmes qui disaient
J'étais pas faite
pour ça, puis j'aime pas ça. Puis ça, on met ça là, comme si c'était la pire chose au monde, alors que ça pourrait arriver. Puis on a l'impression que ça n'existe plus, les curés qui nous mettent de la pression pour avoir des enfants.
Vois?
Il est là, le pape.
Puis en plus, le pape, ce qu'il nous dit, c'est que si vous n'êtes pas capable d'avoir d'enfants, songez à l'adoption. Mais ça n'a pas rapport. C'est un appel, l'adoption. C'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tout d'un coup, tu vas te tourner vers l'adoption. C'est un appel, l'adoption. Moi, j'avais envie d'adopter parce que j'avais envie d'adopter.
T'as toujours voulu être père,
j'ai
Joël,
toujours
tu
voulu, mais j'ai toujours voulu adopter un enfant. Beaucoup plus qu'être père. Je voulais adopter un enfant. C'était en moi, c'est un appel. Et encore là, les gens se sentent coupables. Ceux qui ne sont pas capables d'avoir d'enfants, ils se disent « Ouais, mais c'est vrai, on pourrait adopter. » Non, c'est pas une solution.
C'est pas
une vocation, puis un appel, lui-là. Je veux dire, c'est pas mal ça qui l'a amené à faire ce qu'il fait. Donc, il devrait comprendre c'est quoi une vocation, puis un appel. On va pas le...
As-tu toujours su que tu voulais être père ou c'est arrivé sur le tard ou un peu par surprise?
Moi, j'étais
arrivé
jeune, toi.
Moi, j'étais arrivé, j'avais 21 ans, mais moi, c'était l'inverse. C'est que toute mon adolescence, je dirais, je n'aurai jamais. Puis là, mon beau gars est arrivé par surprise. Puis là, il m'a donné envie d'en avoir plein. Ça s'est tellement bien passé. J'ai dit souvent, c'est à cause de toi que j'ai d'autres enfants.
Il est presque 8 heures. Il paraît qu'on a tous un prix, mais jusqu'où on serait prêt à aller pour avoir de l'argent?
Ça dépend
d'avoir
pourquoi.
Beaucoup, beaucoup. OK, voyons voir à quel point vous êtes game. OK, c'est notre jeu. C'est quoi ton prix? Tromper ton ou ta partenaire, à combien tu flanches? Combien faut te donner pour que tu trompes?
Mais il y a des gens qui le font gratos, puis même qui paieraient pour tromper leur partenaire.
C'est pour ça que je dis que moi, ça, il n'y a aucun prix. Si ça va bien, tu peux pas faire. Tu peux pas le faire pour de l'argent. Tout est fini. Dans proposition indécente, là, c'est 1 million.
Vrai.
Woody Harrelson, il vient fou. Il a le million, mais il vient fou quand Robert Redford couche avec Debbie Moore. Quand ça va mal, les gens le feraient pour un sac de jujube.
Oui.
Quand ça va bien, c'est signe que ça va mal quand ça arrive.
Il
n'y a pas de prix pour ça.
Moi, j'ai fait un cauchemar où il y avait de l'infidélité dans mon couple. Puis je me suis réveillée le lendemain dévastée, en larmes. Là, j'ai regardé mon chum à côté de moi dormir. Puis j'étais comme, hey, Dieu merci, c'est un rêve. Puis là, je lui ai donné des becs. Puis, ah non, je pourrais
ton
pas.
Ton chum, il t'a demandé, mais pour combien je t'avais trompé dans ton rêve? Combien j'avais eu?
Combien faut vous donner pour rendre public toutes les conversations sur Messenger?
Ben, honnêtement, j'ai pas grand chose à cacher.
Non plus.
Là. J'ai déjà pas de fil. J'ai déjà tout vidé mon sac
pas
en public.
Sur Messenger.
Là,
non, moi, j'ai des groupes Messenger d'amis où on fait les jokes qui se font pas, on dit les choses qui se disent pas.
Oui,
pour
le
sortir avec des gangs d'auteurs aussi sur des projets.
J'avoue.
La joke qu'on va mettre en onde, on les met. Fait que moi, Messenger, là, je te dirais 12 millions.
Okay. 12 millions.
Ouais.
Tu vois, moi, 12 piastres, je te le donne.
Ah oui?
Ben oui. Faire un round de 5 minutes avec Georges Saint-Pierre.
Et moi, j'aimerais ça. C'est ça, je me ferais péter la gueule. Là, mais on dirait que j'ai envie de... Je me sens puissante puis capable. J'aurais envie là, de me donner puis de me mettre en mode de warrior puis de donner des coups de poing.
Ouais. 1 million, moi, j'y vais. Parce que je me dis, ça dure pas... Ça dure pas 5 minutes, ça dure 27 secondes.
Ouais.
On part un round, mais si on le fait dans un round avec les règles, qu'est-ce que je dis 27 secondes? Il me donnait un coup de poing, je me couche à terre, l'arbitre arrête. Fait que ça coûte 1 million pour un coup de poing, c'est pas pire.
C'est pas pire, puis 1 million, ben, tu te refais faire toute la face, puis il te reste un 500 000.
C'est ça.
Exact. Ou je reste de même, puis je fais ma carrière avec ça. Je me promène dans le monde pour dire je suis le gars qui a eu 1 million pour un coup de poing d'affaires de Georges Saint-Pierre. Je fais 1 000 $ par soir dans les bars en exil.
Ça peut aussi. Tourner dans un film 3X.
Oh, hey, moi, je le ferai jamais. Tu pourrais me dire je te donne 30 millions, là, je suis vraiment pudique, je veux pas qu'on me voie à poil, à part le gars avec qui je suis en couple, là. Je pourrais jamais faire ça.
Zéro, on a parlé de la pleine conscience tantôt, d'être pleinement conscient quand on fait l'amour. Imagine là, tout le monde te voit pleinement conscient. Non, je n'ai pas être conscient que les gens me voient pleinement conscient.
OK, que tu ne puisses plus jamais parler à ton père ou à ta mère.
Hey, moi, l'argent, ça passe vraiment en... Ça n'a pas une importance
capitale.
Hein,
c'est là qu'on voit.
Mettons que je peux y donner l'argent. Mettons que je pourrais dire, papa m'a donné 10 millions, mais tu ne me parleras plus. Je souhaite même pas ça. Moi, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident. Genre, je me dis, quand je paierais pour rajouter des années pour pouvoir l'appeler puis demander des conseils.
Mais si ton père te dit, OK, oui, c'est correct. Pour moi, tu aurais l'air fou en maudit.
Ben, là, je me dis, ben là, tu vaux pas rien.
C'est ça,
tu vaux pas de maudit.
Puis là, tu vois, t'arrêtes d'y parler, mais il y a même pas le 10 millions.
Exact.
Fait que t'es bien mieux d'y donner.
Comme l'affaire de tromper, c'est une loupe.
Oui.
Proposition indécente. T'en parles, puis c'est déjà un problème.
Oui. Oh,
on entend souvent des histoires de millionnaires qui sont pas heureux, qui sont déprimés, qui sont suicidaires. Donc, c'est vraiment là qu'on réalise que l'argent, pour vrai, ça nous apporte pas du bonheur. On est bien mieux d'être bien, d'aimer ceux qu'on aime, puis de passer du temps avec eux. C'est plus important que l'argent, au final.
C'est-tu beau, ça?
Il y a juste Georges Saint-Pierre qui nous intéresse, dans le fond. C'est battre Georges Saint-Pierre,
C'est nous a allumé
la seule chose qui nous tente, quand même.
Ou faire un film 3X avec Georges Saint-Pierre. Ça, c'est... Si on se met à tout mélanger, tout ça est possible.
Dans mon animation, oui.
Bien
mais
sûr.
À l'intérieur, non, parce que je suis... vraiment, vraiment excitée. Je suis fière de cette saison-ci, des personnalités qu'on a réussi à aller chercher. Puis on a la deuxième saison qu'on mérite, gang. Ça va être débile.
Tu sais, puis j'ai l'impression que tu n'auras pas à te justifier. Tu sais, parce que les gens ne pensaient pas que ça allait être autant inclusif, que ça allait être si généreux, si cocooning, si le fun à regarder, parce qu'on y allait avec télé-réalité, on pensait de la chicane, mais c'était pas ça. Puis déjà, tu le portais, t'arrêtais pas de le dire, mais là, on dirait qu'on te croit, puis on l'a vu.
Fait que t'as comme... Il faut le voir pour le croire.
Exact, exact. Donc ça te rend plus relax, j'ai l'impression.
C'est sûr et certain. Puis, tu sais, nous, pour la première saison, on a trouvé notre rythme. Moi, j'ai trouvé ma place aussi en tant qu'animatrice là-dedans. Ouais. Puis on part de la première saison. Puis là, on est à notre place. Moi, je me sens à ma place. J'ai l'impression que c'est mon plateau. Je me sens en contrôle. Je me sens relax. C'est un show qui se prend pas au sérieux quand même. T'sais. Donc, c'est important que moi, j'installe le ton de la bonne façon. Puis moi, personnellement, je trouve qu'on est là. On a fait le premier tournage hier. Là,
ah oui?
Ça s'est extrêmement bien passé. Je suis complètement biaisée, mais je suis en amour avec chacun d'entre eux. Je les aime. J'ai hâte de les voir aller.
Ben c'est ça, Marie-Mé, quand tu animes un show comme ça, tu viens de le dire, tu les aimes, les candidats. On dirait que ça devient tes petits bébés à quelque part. À quel point est-ce que tu t'attaches? Puis à quel point est-ce que c'est tough après ça de les voir partir à l'élimination?
C'est sûr que c'est pas évident, tu sais, parce qu'on les voit entrer, on sent la nervosité. On sent à quel point ils ont envie de donner un bon show aussi cette année. Ils savent en entrant dans la maison que ça va être plus exigeant. On leur a dit, on les a préparés. Donc, ceux qui sont là en ce moment tenaient à participer à l'émission. Ça fait que ça installe vraiment une belle énergie déjà. Puis après ça, c'est ça. C'est difficile de les voir partir quand ils ont investi à ce point-là. Mais oui, moi, je me sens comme une petite maman, là, puis je veux tout qui passe bien, puis je veux qu'ils soient heureux, puis j'ai eu la chance de les rencontrer, de faire des petites entrevues avec chacun d'entre eux. Puis je pense qu'on a une belle, belle, belle saison entre les mains.
Puis t'as une belle gang aussi. Là, on connaît Guylaine Gay, Claudia Bouvette, mais là, il y en a plein d'autres aussi. Est-ce qu'ils vont nous surprendre?
Oui, absolument. Puis déjà là, tu sais, de les voir entrer dans la maison, je vois des personnalités ressortir qui surprennent. C'est comme, oh, je m'attendais pas à ça. Puis si on parle, mettons, de Guylaine et de Claudia, c'est déjà Claudia, on la sent très rassembleuse, c'est une leader naturelle, les gens gravitent beaucoup autour d'elle. Puis Guylaine, ben c'est la meilleure amie qu'on veut tous avoir dans notre vie.
C'est
donc
tellement
c'est un
ça.
Peu la
Richardson de cette année, un peu. C'est un peu la Richardson de cette année.
Oui. Oui, exact.
Et je voulais qu'on s'amuse un petit peu, Marimé. Si toi, le mettons, là, on parle, là, tu devais participer à Big Brother à titre de candidate, tu serais quel genre de joueur? Est-ce que tu serais super stratégique ou très go with the flow?
Ouf! Je vais commencer en disant que je participerais pas.
Non!
Parce que moi, je suis pas stratégique dans la vie. T'sais, fait que moi, j'aurais probablement été dans l'alliance des peinés.
Oui.
Puis là, je me serais dit, on a le contrôle de sa maison, guys. On a le contrôle de sa maison. Puis j'aurais été la première à sortir.
Exact. La nouvelle maison a l'air de quoi, là?
C'est vraiment beau. Ça fait une grosse différence là, comparé à la saison 1. Premièrement, c'est énorme. L'éclairage est fabuleux dans la maison. Donc, c'est technique là, ce que je dis, mais les shots à la télévision sont très belles. Il n'y a aucune cachette ou un petit coin là où on ne peut pas les voir. Donc, ils sont très, très, très exposés. Mais c'est chaleureux quand même. Je pense que vous allez vraiment aimer ça. Je trouve qu'on a une saison qui se surpasse la première année. C'était la première pour tout le monde.
Ouais.
On s'est placé là-dedans. Ça a bien marché. On a été chanceux. Puis là, on met la barre encore plus haute pour la deuxième saison.
En tout cas, Marimé, en plus d'être une bonne animatrice puis une bonne chanteuse, c'est une bonne vendeuse en
tabarnouche. Oui, vraiment. On a tellement hâte.
On peut voir la vidéo de la maison sur les réseaux sociaux de Rouge, donc Facebook et Instagram, parce que Rouge, c'est la radio officielle de Big Brother! Merci beaucoup, Marimé. Amuse-toi bien.
Hey, bonne saison, tout le monde. Bye, bye.
Merci. Donc, on la retrouve ce dimanche, 18h. On aura parlé de quenouilles, on aura parlé de lait maternel pour faire des statues. Là, on va parler de la couleur de vos yeux. OK? Ça pourrait révéler des indices pertinents sur votre santé et votre personnalité. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'elle pourrait aussi déterminer qui vous attire le plus. Des spécialistes qui disent maintenant que les gens auraient tendance à tomber amoureux de gens qui ont la même couleur de yeux que ceux de leurs parents.
Ah!
Donc, regardez ça.
Moi, ça ne fonctionne pas du tout.
Non.
Moi, chez nous, je suis vraiment le petit canard noir. Le petit, c'est ça l'expression, le canard noir?
C'est pas ça, mais t'as la dinde noire ou t'as le canard, la petite patte cassée.
Bon, c'est ça. J'ai la patte cassée, je suis le petit caneton.
Oui.
Mais tout le monde est blond chez nous aux yeux bleus, sauf ma mère qui est blonde aux yeux verts. Puis moi, j'ai pas rapport brune aux yeux bruns.
Oui.
Puis moi, mon chum, il est brun aux yeux bruns. Puis j'aime les hommes foncés.
Mais ton père, les yeux, quelle couleur?
Bleu. Hey, mon père, il était blond, blanc, jeune, les yeux bleus. Bleu. Ma sœur jumelle aussi, qui est blonde aux yeux bleus. Fait que tout le monde a... Moi, je suis vrai, j'ai pas rapport dans ce groupe-là.
Fait que tu vois cette étude...
Mes parents ont les yeux bleus et verts. Mais les mères de mes enfants ont les yeux bruns. Mon amoureuse, en ce moment, les yeux bruns. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. Puis moi, je pense que même ça peut être très malaisant. Essaye-le au lit, là. Fais l'amour. Puis juste au bon moment, dis... T'as les yeux de maman.
Ah,
c'est sûr que... Je pense que ça va être turn-off.
Oui.
Fait que pour résumer, c'est une étude de merde.
Ben genre,
heureusement, on n'avait pas 8 minutes à faire là-dessus.
Une chance qu'on est en fait chaud.
Non, mais on dit dans l'article qu'il faudrait faire plus d'études pour confirmer la théorie. Mais tu vois, dans mon cas, ça marche. Mon copain a les yeux bleus, ma mère a les yeux bleus. Puis c'est comme un bleu-vert-gris, donc je reconnais... la couleur des yeux. Mais
croyez-vous en ça, cette notion-là d'âme-sœur, qu'il y a vraiment une personne qui est faite pour nous, sur la Terre? Est-ce que vous y croyez?
Ben, à 7 milliards, il faudrait...
Oui.
Si ça existe, puis que c'est la personne, ça tombe bien, qu'elle soit proche, qu'elle soit dans le 514 ou dans le 450 aussi. Hein? Non, moi, je crois pas à ça. Je crois qu'on rencontre des gens, puis on fait des moments du
tout
temps avec des gens dans notre vie. Après ça, on a besoin d'autres choses, on rencontre d'autres gens. Il y a des gens pas faits pour nous, ça, c'est sûr, qui peuvent être toxiques, mais l'âme sœur, là...
On parle des yeux, là, mais qu'est-ce que vous remarquez en premier chez quelqu'un?
Moi, c'est ton charisme, c'est ton dynamisme, c'est ton énergie.
La personnalité.
Oui, si on a une bonne conversation, qu'on rit, qu'on a du fun, bien, tout de suite, je te trouve beau, puis tout de suite, tu vas me faire battre le cœur. Moi, je suis vraiment pas une fille d'apparence. C'est pas ça qui est important pour moi au début.
Non, parce que ton chum est vraiment laid.
Mais, mais attends, d'ailleurs.
Vous êtes pas dans la même ligue, comme
non,
ça, on en parlait
plus
tôt.
Mais au début, quand je l'ai rencontré, je trouvais qu'il était trop beau, puis je me dis, il est trop beau, il a sûrement pas de personnalité, il est sûrement pas drôle. Il a sûrement couché avec toute la Rive-Sud au complet, être beau de même. Puis finalement, j'ai vraiment connecté avec lui, puis il me fait rire. Puis c'est l'humain le plus pur que je connaisse. Fait que
pour il avait couché avec la Rive-Nord. Oui, pas du tout avec la Rive-Sud.
Ça, la Rive-Nord, ben c'est correct.
Oui, c'est correct.
C'est des gens qui sont mieux que la Rive-Sud.
Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.